Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h42, il est sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau est donc en direct en studio, notre invité ce matin. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
D'abord, cette affaire d'espionnage XXL en première page de tous les journaux ce matin, avec des photos du président Macron portable collé à l'oreille. Macron dans la ligne de mire du Maroc, Macron ciblé, le chef de l'État visé par le logiciel israélien Pegasus qui pirate les téléphones avec le Maroc qui serait commanditaire. Que le président français et 14 ministres de son gouvernement de l'époque 2019 soient ciblés, est-ce que c'est grave ?
Bien sûr que c'est inadmissible de la part d'un pays ami. Mais franchement, ceux qui viennent de le découvrir sont de grands naïfs. Aujourd'hui, tout le monde espionne tout le monde. Et il y a fort à parier que la France espionne aussi un certain nombre de pays. Je voudrais simplement vous rappeler que M. Obama avait, par l'intermédiaire de la NSA, espionné Mme Merkel. Je voudrais simplement vous rappeler que les États-Unis avaient aussi espionné trois présidents de la République successifs. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Donc ça, c'est un fait. Arrêtons de penser qu'on vit dans un monde de bisounours. Le seul changement, c'est que désormais, on a des logiciels qui sont extrêmement pointus et qui sont à la portée de tous les pays. Donc, il faut qu'on se protège. Et moi, au moment où on se parle, j'espère que le chef d'État a mis de côté son téléphone qui n'est pas sécurisé, parce que ça n'est pas le téléphone sécurisé qui a été l'outil de l'espionnage. C'est l'autre téléphone. Et avec ce logiciel, ce qui est terrible, c'est que vous déclenchez à distance, y compris le micro du portable. Donc, vous entrez dans le bureau d'Emmanuel Macron, qui est en train de discuter, par exemple, avec Angela Merkel, et vous pouvez capter l'ensemble de la conversation. Donc, il ne faut pas être naïf, et donc, c'est une question de sécurité nationale, et je demande que les moyens soient pris au plus haut niveau de l'État pour refermer, justement, cette fenêtre d'amateurisme.
Justement, les moyens, c'est quoi ? Comment on se protège de tout ça aujourd'hui ?
Vous ne vous protégerez pas à 100%, mais vous pouvez vous protéger. D'ailleurs, l'exemple montre. Il a deux téléphones. Ce que je sais, peut-être vous m'en direz plus, c'est que ça n'est pas le téléphone sécurisé qui a subi Pegasus, le logiciel espion, c'est l'autre téléphone. Donc il y a un certain nombre de béaba qu'un responsable de haut niveau comme il l'est, président de la République, doit prendre et doit appliquer. C'est pas une question de caprice. Quand on est président de la République, on ne peut plus choisir la façon dont on vit. Évidemment, parce qu'on ne s'appartient plus. Tout devient une question de sécurité nationale.
Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a été naïf là-dessus ?
En tout cas, je pense qu'il y a une imprudence, bien sûr. Il y a sûrement une imprudence.
Le Maroc dément, assure ne pas être un utilisateur de Pegasus. En même temps, ils ne vont pas dire oui, c'est vrai. On est d'accord. Si c'est avéré que le Maroc est derrière cette affaire, ça veut dire qu'il faudra revoir notre politique vis-à-vis de ce pays ami, comme vous dites ?
Faudra s'expliquer. Mais encore une fois, si vous coupiez toutes les relations diplomatiques avec ceux qui vous écoutent, vous finiriez tout seul. Tout seul, y compris vis-à-vis de nos grands alliés. Je citais l'exemple des États-Unis il y a quelques instants qui ont espionné la France, peut-être l'espionnent-ils toujours, et l'exemple de les États-Unis de M. Obama qui espionnait Mme Merkel,
On s'espionne tous, donc, entre alliés aussi. Et on va toujours plus loin dans
bien
ce qu'on
sûr,
découvre.
Bien sûr, le problème aujourd'hui, c'est que les technologies, un, sont de plus en plus performantes, et deux, elles sont à la portée de tous, en tout cas d'un très grand nombre d'États, et de petits États aussi, d'États beaucoup plus faibles. C'est la raison pour laquelle il faut absolument redoubler de vigilance et de prudence, et je pense qu'il y a un certain nombre de décisions, d'ailleurs, qu'a pris le gouvernement depuis un certain nombre de mois. Il faut qu'en matière de cyberattaque, on rehausse énormément le niveau de protection pour la France, pour bien entendu nos dirigeants d'abord, mais aussi pour notre économie.
Emmanuel Macron, toujours lui, Bruno Retailleau, et ses contraintes sanitaires et quotidiennes face à la quatrième vague, face au variant Delta, la vaccination obligatoire, le pass sanitaire pour tout ou presque, est-ce qu'il a eu raison ?
En tout cas, je vais vous dire, je vais vous répondre. Je pense, pour vous répondre tout de suite, que pour ce qui concerne le pass sanitaire, c'est sans doute la moins mauvaise solution. Le pire, c'est à nouveau des couvre-feux, à nouveau des confinements, avec une jeunesse qui décroche, avec des problèmes notamment psychiques et une économie qui s'effondre. D'accord. Simplement, on voit qu'on est à l'aube d'une nouvelle épidémie. J'ai entendu d'ailleurs les chiffres du ministre de la Solidarité et de la Santé. 150% de progression du virus. Pratiquement 20 000 cas lundi dernier. Donc, on est vraiment dans une flambée épidémique. Il faut se protéger. La vaccination pour tous, c'est un moyen brutal. Très peu de pays le font d'ailleurs. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Kazakhstan. Très peu, parce que c'est vis-à-vis de notre liberté, des uns et des autres, un peu contraignant.
Vous seriez pour, vous ?
Non, je n'ai jamais. Il faut vraiment l'éviter parce que je pense que ça fracturera la France. Je vais vous dire ce qu'on pourrait faire. J'en reviens sur le pass sanitaire. Pas question de l'accepter tel que. Ça doit être un pass sanitaire, c'est-à-dire une incitation à la vaccination. Ça a plutôt bien marché, puisque beaucoup de Françaises et de Français se sont précipités dans les centres de vaccination. Le problème, c'est qu'il faut des vaccins. Dans le Doubs, il n'y en a plus, ce qui est terrible. Donc attention. Mais surtout, ça doit être juste et proportionné. Juste, par exemple, ceux qui répondent à l'appel d'Emmanuel Macron de se faire vacciner ne pourront pas, dans le délai, dans le calendrier que prescrit la loi, être prêts. Ils auront la primo-vaccination. Donc il faut peut-être un pass provisoire pour en tenir compte. Il faut que ça soit proportionné. Écoutez, on ne va pas mettre sur les restaurateurs, sur les bistrotiers, des sanctions pénales. Des sanctions, oui, mais pas des sanctions pénales. De même qu'il faut faire attention. On peut quand même, en plein air, notamment sur les terrasses, pouvoir prendre un café, etc., sans avoir de passe. Donc je pense que tout ça doit être des mesures d'équilibre dans l'application, vous voyez. Et éviter ce qu'on a connu jadis, et il n'y a pas très longtemps, l'absurdistan. C'est-à-dire la bureaucratie qui nous met des règles qui sont trop pesantes et qui sont surtout souvent inefficace.
Bruno Retailleau, le projet de loi qui instaure ces nouvelles mesures, il arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Demain, ce sera chez vous au Sénat. Hein. Ça va très vite.
Plus que
ça
demain,
va pas trop vite.
Vendredi.
Oui, j'imagine que ça va vous occuper. C'est une bonne loi selon vous, sur sa globalité. Et est-ce que vous allez y apporter des amendements ?
Ah, on ne la votera pas telle que. Je l'ai dit, oui, au pass sanitaire, non, un pass arbitraire. Donc, on va proposer de nombreux amendements sur les délais, sur les sanctions, pour tenir compte du bon sens, parce qu'il faut que les gens puissent avoir les délais, notamment la possibilité de correctement l'appliquer. Et puis, on saisira avec le groupe centriste au Sénat, nous saisirons ensemble le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse bien s'assurer au bout du bout que cette loi-là, telle qu'elle aura été votée, ne méconnaît pas les garanties en termes de liberté publique. Ça sera vraiment une garantie qu'on veut donner, nous, le Sénat, aux Français, c'est fondamental. Vous me disiez si c'est trop rapide. Le problème est la gestion chaotique du gouvernement. Il n'y a jamais eu d'anticipation. Depuis 18 mois, sur l'affaire des masques, sur l'affaire du dépistage. Mmh. Et aujourd'hui...
Là, en même temps, le Delta, il est arrivé non, très très vite quand
non,
même. Hein.
Non. Faux. On avait l'exemple. On avait plusieurs exemples, et notamment un exemple outre-Manche, avec un à deux mois d'avance sur nous. On ne peut pas déclarer... Enfin, les déclarations à la fin du mois de juin, vous vous rendez compte, c'est il y a quelques semaines, de triomphalisme, pour qu'ensuite on verse dans le catastrophisme. C'est ça que je reproche. Et malheureusement, vous voyez... cette confiance, et on a besoin de la confiance pour que les Français se fassent vacciner, elle a été érodée. Elle a été érodée sur l'affaire des masques, sur l'affaire du dépistage. Et elle est érodée lorsque on dit bah, le pass, ça va être utile uniquement pour des grosses jauges et pas du tout dans les actes de la vie quotidienne. Et on se contredit après. Donc c'est un affaiblissement de la parole publique. C'est ça qui est grave, cette gestion chaotique, cette gestion qui est aussi parfois conflictuelle. Quand le porte-parole du gouvernement, dans Le Parisien, déclare que on y a deux frances, en réalité. Une frange qui serait une frange capricieuse et puis plus ou moins complotiste, ça n'est pas son mot, mais en tout cas, il dit capricieuse. Et puis une frange, et défaitiste, il dit. Et une autre frange qui serait la France, qui serait laborieuse et qui serait volontariste. Vous ne pouvez pas opposer les Français comme ça. Vous ne pouvez pas insulter parce que vous n'êtes pas d'accord avec des compatriotes qui pensent que, sans doute légitimement, ça blesse leur liberté personnelle. Vous ne pouvez pas les insulter.
Vous les soutenez, ces Français-là, qui manifestent ?
Non, je ne les soutiens pas, mais je ne les injurie pas. Je les respecte. Et je leur dis, je me suis fait vacciner dès que j'ai pu. Je me dis que se faire vacciner, ce n'est pas seulement se protéger, c'est protéger les autres. Cette épidémie a montré que nous sommes liés profondément les uns aux autres. Moi, je suis attaché à la liberté. Vraiment, je le suis. En revanche, je considère que le pire de tout, c'est le confinement. C'est de tout laisser aller. On peut quand même se faire vacciner, d'autant plus qu'il y a 3 milliards d'êtres humains. On a du recul suffisant. Au départ, je le comprends. Aujourd'hui, on a le recul. Donc, si on veut tous ensemble résister, bien, il faut que chacun d'entre nous prenions nos responsabilités. Et enfin, vous me posiez la question, est-ce que vous êtes OK pour une vaccination obligatoire ? Ouais. J'y suis pas favorable. En revanche, vous avez aujourd'hui 30% de gens qui, par exemple, sont obèses, qui ont des comorbidités, qui ne sont toujours pas vaccinés. Vous avez près de 20% des plus de 80 ans, plus de 10% des plus de 70 ans. Là, il faut que les médecins puissent aller les... Là, il y a vraiment un travail, si j'ose dire, chirurgical pour les convaincre. Parce qu'une fois qu'on aura vacciné les personnes les plus fragiles, même si on a une épidémie qui se propage, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de morts et de cas graves.
Alors, cette crise sanitaire, elle n'en finit pas. Le chef de l'État disait qu'on en a encore jusqu'à 2022 pour quelques mois l'an prochain. Elle sera au centre de la campagne présidentielle, cette crise. Le scrutin pour l'Élysée, c'est dans moins de 10 mois. Est-ce que vous vous sentez, vous, Bruno Retailleau, l'âme d'un candidat?
Oui, pas que moi, mais nous sommes plusieurs sur cette ligne de départ. Ce que je sais, en tout cas, c'est que la France est à droite, que beaucoup de Français partagent nos convictions, veulent nos solutions. On a gagné les 4 dernières élections municipales, sénatoriales, les 2 élections régionales et puis départementales. Donc les Français veulent une alternance. Ils veulent pas du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc nous, on a une responsabilité. Le problème à droite, souvent, c'est que notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes. Ce sont nos divisions. Donc on essaie de les traiter. On essaie de les régler.
Justement, vous êtes rassemblés hier dans un hôtel parisien, je pense, hein, c'est ça, avec plusieurs leaders des Républicains. Pourquoi tout ce grand mystère? Il n'y avait pas de caméra. Pourquoi organiser tout ça?
Non, mais parce que dans une réunion, quand vous voulez discuter librement, vous devez le faire à l'abri des caméras. Il ne doit pas y avoir de voyeurisme. On n'a rien à cacher.
Et vous avez discuté librement, alors, du coup?
Franchement, oui. Ouais. Et franchement, je vous le dirais, en toute sincérité,
vraiment.
Moi j'étais surpris, et heureusement surpris, de la réunion d'hier, parce que j'ai vraiment senti une volunté d'unité. Je pense que chacun... Il y avait Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse,
Gérard Larcher, voilà. Michel Barnier, vous.
Voilà, il y avait Philippe Juvin. Voilà. Mmh. Donc on était 5 candidats potentiels. Et puis Jean Leonetti, Christian Jacob et Gérard Larcher.
Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde qui veut se lancer dans la bataille? Est-ce qu'il n'y a pas trop de candidats intéressés comme
on
vous,
a des talents. Non, mais bien sûr, on a des talents. Mmh. C'est justement la raison pour laquelle, pour ne pas se diviser, parce que le pire de tout, c'est que le premier tour de l'élection présidentielle nous sert de primaire. Moi, j'ai une solution depuis des mois et des mois. Je pense que quand il y a une incertitude et que personne ne tue le match, alors faut le vote. On ne peut pas déplorer d'un côté les abstentions records qu'on a eues au régional et ne pas vouloir faire participer les gens. Qui a peur d'un vote? Je pense qu'il faut une confrontation franche, loyale, qui soit aussi le moment de l'explication autour d'un projet, des convictions. Les Français ne veulent pas, vous savez, d'une droite à l'eau tiède. Je crois qu'ils ont soupé. La droite, parfois, dans le passé, les a déçus.
On n'a pas cité, de vous couper Xavier Bertrand encore.
Parce qu'il n'a pas voulu venir hier, c'est dommage.
Il est dans la course, lui.
Bien sûr qu'il est dans la course.
En tant que LR ou en tant que représentant de la droite?
Non, il a quitté LR. Je considère qu'il fait partie de la famille de la droite et du centre, évidemment. Ah. Et si on doit avoir une primaire au mois d'octobre ou novembre prochain, il faudra que ce soit non pas une primaire strictement réservée à LR, mais une vraie primaire ouverte qui donne un élan pour celui qui va gagner, mais surtout qui donne l'occasion de faire une équipe de France. Hier, ce que j'ai ressenti, moi, c'est qu'il y a une équipe de France. Il y a des talents et on est capable de travailler ensemble et on partage des convictions qui sont assez communes.
On peut avoir Xavier Bertrand et un candidat LR.
Ça serait terrible. Mais on pourrait en prendre le chemin. Demain, si on a des primaires, ceux qui voudront s'y soumettre, ils étaient autour de la table hier, à ce moment-là, il y aurait un champion et il y aurait 2 candidats. C'est pas possible. Donc je dis à Xavier Bertrand que la présidentielle, c'est pas une course en solitaire. Et vous savez, on le voit avec Emmanuel Macron.
C'est ce que vont lui dire aujourd'hui Christian Jacob.
Bien sûr. Gouverner, on peut pas gouverner seul. Regardez l'exemple d'Emmanuel Macron. Il a été élu seul. Ok, ça lui a profité. Mais après, ce sera un des présidents de la République qui aura le plus déçu, qui aura sans doute un des bilans les plus faibles, parce qu'il a été trop seul. Et même quand on est, comment dirais-je, talentueux, très intelligent, seul, on ne peut pas redresser un pays.
Bruno Retailleau était l'invité de RTL Matin. Merci à vous, bonne journée.